VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roch Billon, il est midi à Yaoundé. Bonjour à tous. Après deux reports, le Cameroun a finalement annoncé dimanche la tenue d'élections législatives et municipales le 9 février 2020, alors que le pays est confronté à une grave crise dans ses zones anglophones et fait également face aux attaques djihadistes de Boko Haram. La présidence camerounaise a annoncé la tenue de ces scrutins, les premiers en 7 ans, dans un décret publié hier dimanche. Élu en 2013, le Parlement camerounais n'a pas été renouvelé en 2018, le président Paul Biya ayant décidé de prolonger le mandat des élus dans un pays ébranlé par des questions de sécurité. En République démocratique du Congo, des tensions ont surgi au sein de la coalition au pouvoir qui réunit les forces du président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Un proche du président annonce une rupture des discussions entre les deux camps. Nathalie Barge.
Le responsable du parti de Félix Tshisekedi et de sa coalition CAP pour le changement, Jean-Marc Kabound, a annoncé l'arrêt de toute discussion avec le Front commun pour le Congo. Monsieur Kabound accuse des individus d'avoir brûlé une affiche de Monsieur Tshisekedi à Kolwezi sur la base d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Nous avons arrêté toute discussion avec le FCC jusqu'à ce que les responsabilités soient établies, a-t-il déclaré. Le gouverneur pro-Kabila de la province de Lualaba, Richard Mouyège, a affirmé que des portraits de Monsieur Kabila ont également été déchirés. Il a qualifié ces atteintes aux effigies de messieurs Tshisekedi et Kabila de coups de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Le FCC condamne les actes répréhensibles de ces dernières 72 heures posés par les militants des différents bords, a également déclaré son porte-parole Néhémi Mouilania.
Et toujours en RDC, l'un des fondateurs du mouvement citoyen Filimbi, Floribert Anzouleni, est rentré dimanche à Kinshasa après plus de 4 ans en Belgique, où il avait fui le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Il se félicite que la mobilisation interne et externe ait empêché Joseph Kabila de se représenter, puis d'imposer son dauphin Emmanuel Ramazani Shadary comme vainqueur de la présidentielle. Cadre bancaire spécialisé dans la gestion des risques, M. Anzouleni avait quitté la RDC en mars 2015 après un coup de filet de la police visant Filimbi et des activistes des mouvements balais citoyens du Burkina et Yanamar du Sénégal. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou était ce week-end à Difa, région secouée depuis 2015 par les assauts répétés de Boko Haram. L'objectif de sa visite était de remonter le moral des troupes et soutenir les populations locales. Les détails de cette visite avec notre correspondant Abdou Razak Idrissa.
C'est la deuxième fois depuis la toute première attaque de la secte Boko Haram à Difa en février 2015 que le président Issoufou Mahamadou se rend dans la région. Face aux dures épreuves qu'elles ont endurées, les populations ont réclamé vainement une visite symbolique de compassion du chef de l'État. Bien que tardive pour beaucoup, celle effectuée en quelques heures dans cette matinée du samedi 9 novembre 2019 n'a pas été boudée.
Nous sommes vraiment très heureux de l'arrivée du président de la République parce que depuis un moment, la population de Difa vit dans une psychose à cause de l'insécurité et surtout, il y a encore le problème de l'inondation qui s'est ajouté. Et que depuis un moment, les gens attendent l'arrivée du président et il n'est pas venu. Mais aujourd'hui, il est là. Vraiment, nous sommes très heureux de son arrivée.
Au-delà du soutien aux populations civiles face à la terreur de Boko Haram, la visite du président Issoufou était aussi un signe d'un encouragement supplémentaire aux forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain.
Officiers, sous-officiers, militaires du rang, aviateurs, gendarmes, gardes nationaux et agents de sécurité de la place de Difa, je me suis fait le devoir de venir personnellement pour m'adresser à vous, vous qui êtes physiquement engagés sur le terrain pour combattre jusqu'à l'éradication totale du groupe terroriste Boko Haram.
À la place d'armes de la zone de défense numéro 5 de Difa, Issoufou Mahamadou s'est directement adressé aux militaires.
Vous qui êtes engagés en première ligne dans ce combat, je tiens à vous exprimer de vive voix toute ma satisfaction et toutes mes félicitations pour ce que vous faites sur le terrain. Je tiens aussi à louer votre professionnalisme et votre combativité. Je vous exhorte à plus de vigilance, à plus de collaboration avec toutes les autorités administratives, coutumières et religieuses, avec les populations dans leur ensemble, avec les humanitaires, les pays amis et partenaires stratégiques qui nous accompagnent.
La résilience de la secte Boko Haram tient au fait qu'elle mène une guerre d'usure, faite d'esquive et de retardement, a indiqué Issoufou Mahamadou, qui, prenant congé des militaires, leur a promis que l'ennemi sera vaincu. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
L'ancien premier ministre algérien Ali Benflis, candidat à la présidentielle du 12 décembre en Algérie, s'est engagé dimanche à satisfaire les revendications de la révolution s'il est élu, s'adressant au mouvement de contestation populaire dont le pays est le théâtre depuis le 22 février. Candidat à deux reprises contre le président déchu Abdelaziz Bouteflika en 2004 et 2014, M. Benflis, 75 ans, s'est notamment engagé à dissoudre le Parlement et à promouvoir une nouvelle constitution dans une volonté apparente de donner des gages aux manifestants qui refusent la tenue du scrutin. Quelques centaines de manifestants ont défilé hier dans les rues de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, pour réclamer le départ du président Jovenel Moïse au lendemain de l'accord signé entre opposants et membres de la société civile visant à organiser la transition politique dans le pays après son départ. La signature du document a été formalisée dimanche dans un local syndical de la capitale, cérémonie qui a donné lieu à des altercations entre des militants qui exigeaient de paraffer le texte conjointement avec les responsables des groupes politiques. L'accord ne contient aucun calendrier précis quant à la concrétisation de cette transition politique, ce qui suscite la crainte chez certains jeunes contestataires.
Nos infos sur voaafrique.com.
Hors du continent, le président bolivien Evo Morales a démissionné hier après 3 semaines de protestations contre sa réélection et une foule joyeuse a célébré la nouvelle dans les rues, tandis qu'avaient lieu les arrestations d'anciens dirigeants. Evo Morales a annoncé qu'un mandat d'arrêt illégal avait été émis contre lui, ce qu'a démenti le commandant de la police, Vladimir Yuri Calderon. La Bolivie fait face donc à une vacance du pouvoir après la démission du président et de tous les autres hauts responsables politiques qui auraient dû assurer l'intérim à la tête du pays, le vice-président et les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Ici aux États-Unis, un grand spectacle politique va débuter mercredi à Washington avec les premières auditions publiques de témoins clés dans l'enquête pour destituer le président Trump. Une mascarade, selon le locataire de la Maison-Blanche, qui juge de prendre sa revanche sur les démocrates dans les urnes en 2020. C'est le diplomate Bill Taylor, chargé d'affaires américain à Kiev, qui ouvrira le bal devant les membres de la puissante commission de renseignement de la Chambre des représentants. La commission entendra ensuite George Kent, haut responsable au département d'État spécialiste de l'Ukraine, puis vendredi, l'ex-ambassadrice des États-Unis à Kiev, Marie Yovanovitch, brusquement relevée de ses fonctions au printemps après avoir fait l'objet d'une campagne hostile menée par l'avocat personnel du président Rudy Giuliani. La Turquie a commencé lundi à expulser des membres étrangers du groupe État islamique qu'elle détient, annonçant le renvoi d'un djihadiste américain et la prochaine expulsion de 7 autres d'origine allemande. Ankara a été accusée ces dernières semaines d'affaiblir la lutte contre les éléments dispersés de l'État islamique en lançant le 9 octobre une offensive contre la milice kurde des unités de protection du peuple, les YPJ, fer de lance du combat contre l'organisation djihadiste. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué vendredi que la Turquie avait capturé 287 personnes qui s'étaient échappées de la prison pour membres de l'État islamique en Syrie après le déclenchement de l'offensive d'Ankara. Et puis un policier de Hong Kong a tiré aujourd'hui sur un manifestant masqué, le blessant au torse, alors que la mégalopole était paralysée par des opérations de blocage de très grande ampleur menées par la mouvance pro-démocratie. Ce coup de feu qui a été filmé et retransmis en direct sur Facebook illustre à nouveau la dégradation de la situation dans l'ex-colonie britannique qui vit depuis 5 mois sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Fin de ce journal. À
bientôt. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
La musique a dit...